Un jour, ils n'ont plus le choix.
La meilleure des solutions, c'est de fuir, aller loin.
Pour survivre, il fallait partir.
J'ai décidé de vivre en cachet.
Tout quitter.
On a laissé tout ce qu'on a là-bas.
Prendre la route vers un ailleurs inconnu, en quête d'une vie meilleure. Va voir ailleurs. Épisode 1, Rodli. Selon Reporters sans frontières, en 2022, 6 journalistes ont été assassinés en Haïti en raison de leur activité professionnelle. Haïti fait partie des pays les plus dangereux de la région pour les journalistes. Rodli est haïtien, il a 36 ans. Rodli est issu de Cité Soleil, un bidonville situé en périphérie de la capitale Port-au-Prince, tristement célèbre pour être le plus grand, le plus pauvre et le plus dangereux d'Haïti. Rodli a eu la chance d'avoir une mère attentive qui lui a permis d'être scolarisé et d'échapper au triste sort de « bandit », comme il dit lui-même. Cette chance, il en a fait un combat contre l'injustice sociale parce que, dit-il, l'alternative des armes, c'est l'alternative quand on n'a rien d'autre. Devenu journaliste, il anime des émissions sur la radio Signal FM ou sur Radio France Internationale, où il est correspondant culturel. Son credo, c'est de mettre en valeur des artistes issus des quartiers populaires pour prouver qu'il y a un autre avenir pour les jeunes que de devenir un caïd pour les gros bonnets de Cité Soleil. Forcément, son discours agace un peu les gangs qui régissent cette mini-ville de 34 quartiers qu'est devenue Cité Soleil, et il commence à recevoir des appels téléphoniques d'intimidation. Mais il ne s'inquiète pas et continue. En 2018, il crée même une école de journalisme gratuite pour permettre aux jeunes issus des quartiers de suivre sa voie. En 2020, Rodli devient journaliste à la télévision où il anime une émission socioculturelle. Pour autant, il reste vivre à Cité Soleil où il est né. Les petits bandits, il les connaît car il a grandi avec eux. Il connaît tout le monde à Cité Soleil et tout le monde le connaît. La vie de Rodli bascule en 2021. Alors que la guerre des gangs fait rage à Cité Soleil, le commissaire de police Adolphe Mirabel est assassiné et l'information est publiée dans la presse internationale. Soupçonné de l'avoir divulgué, Rodli devient l'homme à abattre.
Les premières intimidations ont commencé par téléphone. Des hommes qui m'appellent pour me dire « voilà, et on sait qu'il n'y a que toi qui travailles pour un média international à Cité Soleil, donc c'est toi qui donnes les informations et tout ». J'ai été à la DCPJ, direction de la police judiciaire en Haïti, déposer des plaintes et tout, voilà, mais rien n'a été fait parce que la police est impuissante par rapport à ce qui se fait dans le pays. J'ai décidé de vivre caché vraiment. Quand j'ai senti réellement et la mort en face, c'était à partir de 20 juin en fait. Vous êtes pourchassé par des bandits, il y avait des hommes à moto qui suivaient mes allers et venir. Parce que à la base, c'est après que j'ai eu ces informations-là, ils ne voulaient pas m'assassiner dans le quartier. Malgré leur puissance, mais ils craignaient que si ils m'assassinent dans le quartier, ça va créer beaucoup, beaucoup d'émoi, ça va créer beaucoup de problèmes. Bon, ils se sont décidés qu'on puisse m'assassiner sur la route. Ce jour-là, le 20, où j'ai fui le quartier, en fait, c'était le jour où on allait décider de venir me chercher dans le quartier. Parce que de 7 jusqu'à 20, on n'arrivait pas à m'atteindre dans la rue. Donc on s'est décidé, il y a même eu une réunion qui se faisait dans le quartier. C'est ce qui m'a sauvé la vie un peu. Donc il y avait quelqu'un qui a... C'était tout près devant une église qu'on a fait la réunion parce que la Cité Soleil, et ils sont tellement puissants que voilà, ils disent tout haut ce qu'ils vont faire. Et puis il y a une dame et il avait un fils à qui je donnais des coups de main en fait. Il était artiste, peintre et tout. Moi-même, je l'aidais à être présent dans les médias, à mettre en avant et ses capacités. Et sa mère a entendu mon nom parce que souvent on m'appelle à Cité Soleil le journaliste. Et on m'a dit que voilà, le journaliste, finalement on n'arrive pas à l'atteindre dans la rue, donc on va venir le chercher. Et il a dépêché son fils pour aller m'attendre à quelques mètres et à l'entrée du quartier pour me dire de ne pas rentrer dans le quartier. Et figurez-vous que ma copine était déjà dans le quartier parce qu'on avait un petit business dans le quartier. C'est ma copine qui s'occupait de ça. Je me suis dit, mais je ne peux pas laisser ma copine. Il faut que je rentre. J'ai fait quelques routes détournées. Voilà, je suis rentré dans le quartier. Mais j'ai remarqué que le quartier, tout le monde me fuyait en fait. Je ne savais pas, mais tout le monde savait que c'était ce jour-là qu'on allait venir me chercher. Mais personne ne pouvait me le dire. Parce que c'est après que j'ai compris. Il y a des gens qui me regardaient, il y avait presque de larmes aux yeux en fait. Mais ils pouvaient même pas m'approcher. Donc je suis rentré, j'ai été voir sa mère. Et sa mère m'a dit, mon fils, il faut fuir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut fuir. Je ne peux pas vous dire autre chose, il faut fuir. Il s'est risqué. Elle a risqué sa famille aussi. Parce que dans la foulée, après mon départ du quartier, son fils aussi a été menacé. Donc son fils a dû se réfugier en République dominicaine pour fuir la mort à cause de ça. Et à Cité Soleil, tout se sait, mais tout le monde se tait. Et puis donc, pendant même que j'étais à la maison ce jour-là, j'entendais, il y avait un mouvement en fait. J'entendais des gens devant la maison, des gens à moto. Et puis voilà, j'ai fui par les fenêtres. En route pour aller, pour quitter le quartier, j'entendais déjà les détonations. Ce sont des bandits qui tiraient déjà des détonations, non seulement pour faire fuir et la population qui commençait à se masser, parce qu'ils savaient qu'on allait venir me chercher, mais aussi... C'est comme un signal. Et puis, je suis parti heureusement. Mais quelques jours après, il fallait que j'aie des documents. Et je voulais à tout prix récupérer, ne serait-ce que et mon livret bancaire. Donc j'ai demandé, vu qu'on a laissé toutes les portes de la maison ouvertes, j'ai demandé à quelqu'un qui était pas loin, et c'était un voisin, d'entrer à la maison et de prendre mes papiers. Et c'est là, quand il est rentré, il a vu une balle glisser sur la porte, en fait, qu'on a lancée à l'intérieur de la maison. C'était un message, en fait. Parce qu'à Cité Soleil, quand vous recevez une balle, le message est clair. On vous donne cette balle-là, symbolique, pour vous dire que la prochaine, ce sera dans ta tête. C'était ça. C'est leur slogan. Et puis, il a pris une photo qu'il m'a envoyée. Et ça aussi, il a attiré de l'ennui. Le fait d'entrer à la maison, ça l'a attiré. Et bon, du coup, il a pas pu prendre les documents. Donc, du coup, j'ai dû tout refaire. J'ai coupé toutes mes activités. Et j'ai stoppé tout. Je ne pouvais plus aller à la radio. Je ne pouvais même pas aller à l'école. Donc, du coup, on a fermé. Et voilà, donc j'ai décidé de vivre caché. Donc j'étais dans un premier temps dans une ville de province. Là où j'étais, c'était très éloigné donc, et il n'y avait personne qui me connaissait. Donc du coup, je n'étais pas suivi. Du moins, je ne savais pas, je ne le pense pas. Mais comme j'ai dû retourner à Port-au-Prince, parce qu'en Haïti, si vous faites menacer, il faut être là physiquement pour déposer des plaintes. Et il y a un seul endroit, c'est la DCPJ, en plein cœur de Port-au-Prince, à quelques mètres de Cité Soleil en plus. Donc là, j'ai dû revenir à Port-au-Prince pour faire cette démarche judiciaire administrative.
De retour à Port-au-Prince, Rolly s'y retrouve coincé. La guerre des gangs met la ville à feu et à sang et bloque les accès extérieurs. Rolly n'a plus d'autre choix que de rester caché dans la capitale où les bandits rôdent à sa recherche. Pour éviter de mettre sa famille en danger, il se réfugie dans une petite école où le directeur accepte de le cacher le temps des vacances d'été. Mais ses conditions de vie vont empirer au fil des mois.
J'étais enfermé et à vivre dans des conditions d'insalubrité. L'eau où j'étais obligé de boire, il y avait des grenouilles dedans. Et j'avais même pas de charbon de bois pour faire bouillir l'eau en fait. C'était compliqué. Donc j'ai dû, quand j'ai pas de chlore, j'ai dû la boire comme ça. J'ai dû, pour me déplacer et me mettre une casquette, des lunettes, des masques, voilà, pour me déplacer. À un moment, j'ai eu vraiment l'impression que j'étais suivi. Si, et une fois, j'ai dû enlever mon masque pour boire de l'eau. Et quelques heures après, j'ai eu un coup de fil pour me dire, oh, voilà, on sait, hein, voilà, tu es caché à Delma et voilà, tu fais semblant. Parce que j'ai fait courir une rumeur que j'étais à l'étranger aussi pour essayer de calmer les trucs. Mais voilà, ils m'ont dit, ah voilà, vous faisiez quoi que vous étiez à l'étranger, mais on sait là où vous êtes, on va venir vous abattre et tout. Donc du coup, j'ai dû réduire au maximum mes déplacements au point que même ma mère ne pouvait pas venir me voir. C'était tellement terrible, en fait, que j'ai dû mettre en scène ma mort, en fait. Donc, j'ai fait croire que j'étais abattu, que j'étais mort. Jusqu'à présent, je le dis avec beaucoup de tristesse, il y a des membres de ma famille qui pensent que je suis mort.
À l'été 2021, au début de sa cavale, Rodley échappe à une deuxième tentative d'assassinat en pleine rue, alors qu'il tente de faire des démarches administratives. Il se trouve alors avec un jeune étudiant de confiance qui l'accompagne de temps en temps dans ses déplacements, quand un motard surgit devant eux.
Il y avait un gars à moto qui pointait une arme sur moi. J'étais avec un jeune, un gars de confiance, un étudiant de l'école qui, comme il avait une moto et tout, qui faisait les parcours avec moi pour, non seulement pour me rassurer, mais pour me faciliter à aller beaucoup plus vite, en fait. Et il s'est mis devant moi pendant que l'arme était pointée sur moi. Moi-même, je l'ai poussé, j'ai parlé au gars, je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, non, voilà, et on vient pour vous abattre et tout, et tout, et tout. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Parce que le gars qui vient pour vous abattre et il vous dit qu'il vient pour vous abattre, je ne sais pas. Voilà pourquoi moi-même, je dis que c'est un miracle. Je lui ai dit que, vous savez quoi, je suis quelqu'un comme toi. Je connais les mêmes misères. Je suis quelqu'un comme toi et j'ai rien fait. Je te comprends. Tu es là, tu fais ton travail, tu es là pour me tuer. Je te comprends. Mais dis-toi que tu vas tuer un innocent parce que moi-même, je suis pas à la base de ce qu'on me reproche vraiment. Et je sais pas, prise de conscience ou pas, je sais pas. Ce jour-là, il a simplement pris un casque, un écouteur que j'avais, et a simplement pris nos téléphones. Et il est parti. Et après, j'ai dit au jeune qui s'était mis devant moi, mais pourquoi t'as fait ça? Et il m'a sorti un truc vraiment terrible. Il m'a dit, Rodley, tu représentes beaucoup plus pour moi dans la société que moi. Donc, sacrifier ma vie pour toi, ce serait le moins que je puisse faire. Donc, il était prêt à prendre une balle pour moi parce que selon lui, je représentais beaucoup plus de choses. Je valais beaucoup plus dans la société pour lui. Donc ça m'a touché et c'est jusqu'à présent il est en Haïti, c'est un journaliste, il fait malgré tout son travail, mais c'est quelque chose qui, je le dis avec beaucoup d'émotion, mais c'est quelque chose qui me dit, mais voilà, malgré tout ce qu'il y a aussi, que bon, du moins j'ai fait un travail en Haïti, je représentais pour certains quelque chose en fait.
Jésus-Christ son bon ami, les papes et jambes la guémi ont pas. Quelle que soit la tribulation, calamité, difficulté, persécution, tout le monde bouleverse. Ça pas qu'à faire me quitter Jésus. Pas gain l'argent, pas qu'à faire m'abandonner. Non, 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 m'bab, j'en m'quitter. Il fait m'dormir, il fait m'lever. Il fait m'sortir, il fait moins entrer. Pas j'en payer, bon Dieu, c'est un cob. Dans la vie, moins côté m'passé. Puis gars où j'en m'découragé. Puis gars où j'en m'désespéré. La vie, c'est un boulier. Ou pas qu'on côté la p'mené. La vie, c'est un doux et chaud. Ou pas qu'on côté la p'mené. Puis gars où j'en désespéré, puis gars où j'en dépatienté. Pas dit dans famille où c'est au plus mal, c'est bon Dieu seul qui compte sa frème. Pas dit dans famille où c'est au plus mal, c'est seul bon Dieu qui compte sa frème.
J'ai dû faire une vidéo pour alerter la presse internationale pour demander de l'aide parce que j'étais à un moment où aucune institution haïtienne, je peux dire, tout le monde se foutait de moi, de ma situation.
Je fais cette vidéo pour adresser un appel à l'aide au monde entier, aux instances concernées, aux organisations des droits de l'homme, que ce soit locales ou internationale, aux organismes de défense et de protection de journalistes, que ce soit à l'échelle locale qu'internationale, de bien vouloir me venir en aide. Je suis dans une situation très difficile et j'ai très peur pour ma vie. Des gens armés en veulent à ma vie et ils sont prêts à tout pour m'éliminer.
De nombreux médias internationaux relaient son appel au secours, dont en France, TV5 Monde et Getty News, par le biais d'Anderson Michel, un ancien étudiant de Rhodes Lee, qui a dû s'exiler en France dès 2019.
J'ai alerté Radio France Internationale pour leur dire, voilà, je me trouve en galère et tout, voilà, je dois me cacher. Et puis, ils commençaient à faire des démarches. Parce que toutes les démarches pour que je quitte Haïti ont été, pour la plupart, menées d'ici. Parce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a contacté l'ambassade de France, qui a pris un rendez-vous pour moi, donc pour que je puisse aller à l'ambassade. Et il y a le responsable de sécurité de RFI aussi, qui a dû géolocaliser mon téléphone, qui était en contact permanent avec moi pour qu'il puisse savoir où, ce que je fais. Et aussi, j'ai eu pas mal de soutien de RFI et aussi d'autres instances, organisations internationales qui m'ont aidé à tenir, parce que quand vous passez 19 mois, vous ne travaillez plus, donc vous n'avez pas d'argent. Et j'avais de l'argent en banque, mais je ne pouvais pas aller. Et du coup, j'ai tout laissé à la maison. Donc voilà, je n'ai même pas pu prendre ne serait-ce qu'un livre chez moi, parce que c'est resté, les bandits ont tout pris, ont tout volé en fait.
Grâce au relais de ses confrères, Rhodes Lee reçoit le soutien des associations Committee to Protect Journalists aux États-Unis et Free Unlimited Press aux Pays-Bas. Chacune lui fait parvenir 2000 euros pour lui permettre de survivre et financer son vol vers la France. Mais Rhodes Lee doit utiliser une grande partie de cet argent pour reloger sa fiancée et sa mère, qui sont en grande précarité depuis le début de sa cavale en juin 2021.
Je me suis retrouvé entre janvier à ce que 700 dollars américains. Alors que j'ai un billet jusqu'à 1000 et quelques dollars à payer. Et il y a des amis qui, aux États-Unis, qui m'ont donné un peu d'argent. Et c'est là, j'étais à une banque et cherchais un peu d'argent pour compléter et mon billet, l'argent de mon billet. Et j'étais suivi par un gars à moto qui a essayé de faire sonner mon téléphone. Mais comme j'avais des écouteurs Bluetooth, donc quand j'ai décroché, j'ai entendu le bruit ambiant. Je me suis dit, mais la personne là. Et dans le même environnement que moi. Donc, je fais semblant de ne pas parler. J'ai coupé l'appel. Voilà, je marchais comme si de rien n'était. Puis, j'empruntais une route. Mais la moto me suivait. Roulait tranquillement, doucement et me suivait. Et c'est là, moi-même, j'ai fait mes dernières prières, en fait. Et puis, il y a eu un bruit. Mais c'était un pneu ou quelque chose d'autre. Il y a eu un bruit. Moi-même, dans un premier temps, je pensais que c'était une balle, en fait. Et puis, moi-même, j'ai couru. C'est comme ça, j'ai couru, je suis entré dans une maison. Et très vite, quand je suis rentré, et j'ai dit à tout le monde que je suis poursuivi par un bandit, je suis journaliste, j'ai montré et ma carte de presse. Et c'est là, donc, ils n'ont pas crié. Et quelques heures après, je suis rentré et j'ai dit, même avec 700 dollars américains, je vais aller en République dominicaine. Et pour aller en République dominicaine, j'ai dû aller en bus. Mais c'était toute une mise en scène, en fait. Donc, il y a eu des backups de police qui accompagnaient le bus. Trois backups de police, lourdement armés. C'est que pour qu'un bus quitte Haïti pour aller en République dominicaine, il doit payer des policiers qui l'accompagnent pour passer des points chauds. Des bandits, surtout à Croix-des-Bouquets. Il y a des checkpoints des bandits. Donc, il faut qu'il y ait la police lourdement armée. Et vous voyez, il y a des risques d'affrontement et tout. Donc, vous êtes pourchassé, vous êtes dans un bus. C'est pourquoi, moi-même, quand je suis parti, j'ai laissé toutes mes cartes de presse. Voilà. Donc, vous êtes pourchassé, vous êtes dans un bus accompagné par des policiers lourdement armés et qui sont prêts à en découdre, en fait. Et vous allez passer dans des foyers de puissants chefs de gang. Pendant qu'on est dans le bus, on entend des détonations. Parce que quand ils voient la police, soit pour intimider et tout, les bandits, ils tirent aussi. C'est une course folle. C'était vraiment horrible. Et quand je suis arrivé à passer et ce point-là, c'était un soulagement. Et c'est là que j'ai appelé ma copine et en vidéo. Et bon, voilà, il y a eu des larmes et tout. C'était un truc. Figurez-vous, je suis parti. Même ma mère n'a pas pu me dire au revoir pour une dernière fois, en fait. Et c'était compliqué.
En République dominicaine, Rodley doit attendre 12 jours pour réunir l'argent nécessaire à son départ vers la France. Le 11 février, il s'envole pour Paris avec le numéro de téléphone d'un confrère de RFI qui doit l'accueillir à l'aéroport.
Je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, je me rappelle, le 12 février. Donc c'était un dimanche, je suis parti un samedi, je suis arrivé le 12 février, un dimanche. J'avais un numéro, quelqu'un a contacté, des collègues de RFI et d'autres journalistes m'ont donné un numéro. Quelqu'un a contacté qui devait venir me chercher et aussi m'héberger pendant quelques temps, le temps que je fasse des démarches et tout. Et du coup, je l'ai appelé, je ne l'ai pas trouvé. J'avais d'autres connaissances ici en France, mais qui ne savaient même pas que j'allais venir, en fait. Et puis, du coup, j'ai dû passer 8 jours dans la rue. Et j'avais pas vraiment de vêtements adaptés parce qu'en République dominicaine, même à l'aéroport, on m'a volé une partie de mes bagages. J'avais 40 dollars américains que j'ai changé pour des euros. Voilà, ça m'a tenu quelques jours. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui dormait dans la rue qui m'a dit qu'il y a un coin et où on donne des plats chauds. Voilà, donc du coup, j'ai fait 2 jours à manger, voilà, dans cet endroit-là aussi. Et bon, c'est une expérience aussi que j'ai fait. Et malgré moi, mais j'avais pas le choix. Si, peut-être 5 ou 6 jours après, je me rappelle, il y avait un Haïtien qui m'a vu, qui avait l'habitude de me voir à la télévision et qui m'a dit, mais j'avais l'habitude de vous voir, et vous êtes journaliste, je lui ai dit. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Avec tous mes bagages et tout, je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé et tout. Il m'a dit, bon, je connais quelqu'un. Est-ce que par hasard, tu connais pas un tal ? Je lui ai dit, voilà, il m'a passé son numéro et j'ai appelé l'ami et l'ami a décidé de m'héberger pendant un temps, le temps que je puisse faire des démarches et tout. Et c'est pendant que je fasse la démarche, pratiquement tout seul, que j'ai reçu un mail et que la personne aussi m'appelait pour me dire qu'elle a oublié, qu'il est parti en vacances. Très vite, et j'ai dû tout seul aller à Corbeil-Essonne, aller à Coralia, faire les démarches. Je ne savais pas où c'était. Je suis avec mon téléphone en train de me géolocaliser et tout, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu faire la démarche. Et quand je suis arrivé à l'OFI, on m'a dit, bon, est-ce que vous étiez dans la rue et tout ? J'avais dit oui, voilà, parce que j'avais pas d'autre alternative. Parce que mon ami m'a dit qu'il pouvait me garder que pour 10 jours, en fait. Donc, voilà, j'ai mis un peu de coup de pression aussi. Parce que le jour où je suis allé à Coalia, je suis allé avec mes bagages. Parce que j'étais prête à partir, en fait. 2-3 jours après, ils m'ont dit est-ce que si dans 2 jours on vous envoie à un endroit, on fait un billet de train, on vous envoie à un endroit, est-ce que vous acceptez d'aller ? J'ai accepté direct.
Rodley n'a aucune idée de la ville où il va atterrir. Dans les tout premiers jours de mars, c'est à Blois qu'il est accueilli au centre d'accueil et d'examen des situations administratives de l'ASLD 41. Mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant. Au terme de ses 20 mois d'enfer, son corps lâche et Rodley tombe gravement malade. Il est hospitalisé à Tours, où on lui diagnostique une grave infection, doublée d'une tuberculose et d'une méningite.
Honnêtement, je savais que j'allais tomber malade. Parce que j'avais des signaux, en fait. Parce que souvent, c'était pour le stress et tout, parce que souvent, j'avais l'impression de ne plus sentir la mobilité de mon bras droit à chaque fois. Et je savais que c'est comme ça que fonctionne le corps. Donc au moment où on est en mode survie, le corps tient toujours. Mais une fois qu'on est plus calme, et voilà, c'est maintenant qu'il y aurait beaucoup plus de symptômes et tout. Et c'est arrivé comme ça. Mais heureusement, je suis arrivé vraiment, vraiment à temps ici en France. Et heureusement aussi, grâce à... l'organisation, la solidarité française, au fait, j'ai pu très vite, même sans les droits et sociaux, j'ai commencé à être soigné. Parce qu'il fallait attendre 3 mois de présence en France avant de pouvoir avoir accès à l'assurance maladie et tout. Donc, du coup, bon, comme j'ai déjà déposé ma demande d'asile et tout, donc 3 mois après, pendant que j'étais à l'hôpital à Tours, j'ai eu l'ouverture de mon assurance de santé, et puis voilà.
Il y a souvent rien de chagrin, des moments que n'a pas affronté, qui m'en dénonce le courage. Yon bébé que vous adorez, yon bébé que vous faites toute confiance, mais qui pas capable de comprendre. Sans pudeur, la vie est trompée, la sans sentir plus mourir, tristesse remplie de cœur. Mais dans la vie, toujours rien ça. Or, si pas ça, il faut faire me décourager.
En raison de son hospitalisation, l'entretien à l'OFPRA de Rolly est repoussé de mai à juillet. Les choses vont alors très vite. Reçu le 13 juillet à Paris, il obtient son statut de réfugié le 27 juillet, soit au bout de 2 semaines, ce qui est extrêmement rare. Mais pendant ces 14 jours de délai, sa vie n'a tenu qu'à ce fameux entretien.
Dans un processus de demande d'asile, rien n'est facile. Ça a facilité les démarches dans le sens que j'ai eu pas mal de soutien, de lettres de soutien de la part de la direction de RFI, de la part des maisons et de la maison des journalistes et d'autres journalistes ici en France et même en Haïti, d'autres médias. J'ai eu pas mal de soutien. Il y a même eu des lettres venant des médias, d'autres journalistes qui ont travaillé sur mon sujet. J'ai reçu des lettres venues d'Afrique, même du Brésil, des États-Unis et même de l'Angleterre. Donc, j'avais au moins 14 lettres de soutien, au moins, dans le dossier. Et aussi, vu que aussi il y avait pas mal de preuves aussi, par rapport, qui attestent ma situation, il y avait pas mal de preuves. Et il y avait plusieurs organisations internationales qui ont documenté, qui se sont penchées sur ma situation. Donc, il y a eu pas mal d'éléments pour étudier mon dossier, pour l'apprécier en ce sens. Mais c'était une épreuve, en fait, pour moi. Parce que, aussi, vous êtes dans un pays et votre vie se joue à un entretien, en fait. Donc, et vous savez que si vous n'êtes pas retenu, parce que moi-même, c'est ça, c'est ce que j'avais en tête. Si on a refusé mon statut de demandeur d'asile, de réfugié, en fait, j'allais être obligé de retourner en Haïti. Et comme j'ai dit, même maintenant, même aujourd'hui même, si je retourne en Haïti, je serai abattu depuis l'aéroport, en fait. Donc c'était vraiment un soulagement pour moi. Et j'ai très vite appelé et ma copine pour lui dire, voilà. Et je sens aussi que ça aussi, ça m'a donné un sentiment de me rapprocher un peu plus de ma famille. Parce que je sais qu'une fois que j'ai ce doigt, je pourrais au moins faire une demande pour faire venir ma copine, voilà, qui vit dans des situations extrêmement compliquées. Toutes les menaces retombent sur elle. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est un soulagement, en fait.
Rolly a tout à reconstruire ici en France. Faute de pouvoir travailler à cause du traitement médical qui provoque de nombreux effets secondaires, Rolly est au RSA. Dépendre des allocations et des associations caritatives a été difficile à accepter pour lui qui s'est battu pour sortir de la misère de Cité Soleil et qui vivait correctement en Haïti, où il soutenait financièrement sa mère, sa fiancée et même quelques amis.
Toute ma vie, malgré que j'ai grandi à Cité Soleil, mais toute ma vie, j'ai jamais été dans l'assistanat. Même après le tremblement de terre où il y a eu de l'aide internationale, jamais j'ai été faire la queue pour avoir à manger. Et je suis arrivé ici et j'avais pas d'autre alternative. Parce que dans un premier temps, j'avais pas encore même l'allocation de l'ADA, donc allocation de demandeur d'asile, j'avais pas. Donc du coup, j'avais pas de moyens, il y avait que des tickets resto. et que l'association nous donnait 3 tickets resto par semaine, des tickets de 5 euros en fait. Donc ça ne tient pas. Il est vrai qu'à côté, on nous donnait un petit kit de dépannage, mais bon voilà, ça ne pouvait pas tenir en fait. Et du coup, on m'a parlé des Restos du Cœur, mais je suis décidé à aller. C'est par rapport à un ami que j'ai aussi, qui a des difficultés, qui a un handicap physique. Et quand il devrait aller au Resto du Cœur, je devrais l'accompagner naturellement. Et aussi, il m'a dit, il faut t'inscrire et tout. Bon, comme j'avais la nécessité aussi, je me suis inscrit et du coup, on allait ensemble. Mais c'était difficile jusqu'à présent et de te voir dans une ligne. Tu fais la queue, donc, tu attends quelque chose. Et nous, en Haïti, quand un Haïtien te dit qu'il a faim, c'est qu'il a vraiment faim. Parce que l'Haïtien a une fierté. Quand il a faim, il ne dit pas. Je serais beaucoup plus fier si on me faisait faire même un petit boulot et on me dit, par rémunération, on vous donne, en contrepartie, on vous donne 210 euros. Je serais beaucoup plus fier. Mais je sens que je suis dans l'assistanat, en fait. Et du coup, c'est terrible pour moi, je le dis, c'est terrible. Et quand on avait un statut, on vivait de par ses propres moyens. Et puis voilà, on sent aussi, il y a un coup dans le moral aussi. C'est pas facile à vivre, je vous dis. Vous vous sentez voilà, dans l'échelle sociale et que vous êtes déclassé complètement. Et c'est ce qui est beaucoup plus compliqué aussi pour un demandeur d'asile, pour un réfugié, c'est que tout ce qu'on était avant. Voilà, il faut réapprendre à vivre.
En janvier 2024, Rolly est reparti à Paris, où la maison des journalistes prend en charge son hébergement. Il recommence à travailler petit à petit pour RFI et reprend espoir. Mais chez lui, en Haïti, sa famille vit sous pression. L'un de ses frères a dû quitter Port-au-Prince, où il était en danger, en raison de sa forte ressemblance avec Rolly. Quant à sa fiancée et sa mère, elles continuent de vivre cachées dans une église. Rolly espère les faire venir en France dès que possible.